Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Utazi Apero.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Ah, je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Utazi Apero.
Allez, Louis.
Allez, mon petit bonhomme.
Et bonjour à toutes et à tous, et oui, c'est Julien, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Sport. Alors vous aurez reconnu, l'habituel présentateur titulaire Ludo n'est pas là, et c'est donc moi exceptionnellement aujourd'hui qui vais le remplacer, puisque contrairement à la Ligue 1, on a décidé de ne pas faire de trêve internationale, et c'est donc pour ça qu'on vous propose votre habituel rendez-vous du lundi, et donc cette nouvelle émission de l'Instant Sport. On va commencer la présentation de notre équipe de départ avec un remplaçant qui est en train de gagner ses galons de titulaire. C'est Nicolas Thomas, salut Nico.
Salut tout le monde, je précise juste que notre animateur préféré nous a abandonné pour partir en vacances.
Ouais. Bon week-end Nico.
Ça va, bon week-end.
Il paraît que t'as dormi au Cosdoge, raconte-nous.
Ouais, samedi après-midi à la touche et dimanche, premier match de la saison.
Ouais, on y reviendra juste après parce qu'il paraît que t'as joué.
Exactement.
Alors lui est un titulaire indiscutable et centenaire depuis la semaine dernière, c'est Patrick Biancone, bonjour Patrick.
Salut les copains et notre nouvelle membre, mais ça va arriver, tu vas la présenter tout à l'heure. Et bonjour à toutes et à tous. Et ben oui, donc j'attends que tout le monde soit réuni pour. On fêtera ça ma centième. Aujourd'hui, c'est la 101e. Et donc, ben voilà, très heureux d'être là, malgré Ludo qui est sous le soleil de la Corse, on espère.
Il profite.
Même s'il annonce un peu depuis là-bas. En tout cas, on lui fait un gros bisou et on lui dit à bientôt.
Alors on va y revenir tout au long de l'émission, mais bon week-end pour le sport amande.
Oui, c'est vrai, on a passé un samedi soir vraiment incroyable. Et bon, voilà, le foot, le volley et aussi le hand, mais bon, on en parlera puisqu'on a eu la chance de tout voir.
Et enfin, elle rentre en jeu en profitant donc des absences de Ludo et Laurent, puisque Laurent également nous fait faux bond pour ce lundi. C'est Mathilde Cuminal, salut Mathilde.
Salut, salut.
Alors, pas de match ce week-end pour les seniors féminines?
Non, week-end de repos, ça fait du bien.
De repos, t'es sûr?
Ouais, ouais, reposant.
D'accord.
Non, mais de repos footballistique.
Ouais, ouais, ouais. Repos footballistique. Ouais,
ouais. Allez, on va
après,
commencer.
Pour le foie, la tête, tout ça.
Bon, c'était un peu plus compliqué, ouais.
Non, mais c'est une autre partition, là.
C'est quelque chose d'autre, ouais.
C'est ça.
Allez, on va commencer l'actu lausérienne avec le volley, le MVL. Deuxième journée de Ligue B et première à domicile en recevant Nancy. Et ça s'est très très bien passé pour les hommes de Constant Choissy, puisqu'ils se sont imposés 3-7 à 1, 26-24, 25-21, perte du troisième set 23-25, mais gain du quatrième 25-23. Patrick, tu étais au match, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Bah, on a vécu un moment historique, puisque première victoire d'un club lausérien dans le monde professionnel. Bon, on se souviendra de ce match, forcément, dans l'histoire du département. Sportive, ça laissera une trace. Bon, on savait que Nancy avait annoncé la couleur avec le recrutement d'un entraîneur qui a quand même un CV importantissime, puisqu'il a passé quasiment une décennie à Nantes et il a fait progresser ce club de Nantes jusqu'à la Liga où ils sont toujours. Et donc, il veut faire pareil, d'après ce qu'on a compris, il veut faire pareil avec Nancy. Bon, ils avaient pris un 3-0 contre Paris au premier match. Bon, on sait que Paris, c'est l'extraterrestre de la division. Et donc, voilà, on pensait vraiment, bien sûr, que Nancy voulait venir à Mende pour enclencher son championnat. Et puis, ils sont tombés contre une équipe du MVL vraiment, vraiment au point. Et bon, j'ai trouvé vraiment un match d'une très haute intensité, en particulier deux premiers sets, où on a vu deux équipes vraiment au top. Après, avec la pression, la fatigue, les deux derniers sets, bon, il y a eu un peu plus d'erreurs, mais c'est vrai que les deux premiers sets, c'est du volley quasiment jamais vu, même en Coupe de France. Je pense que vraiment, là, on a encore monté vraiment d'un cran. Et donc c'était fabuleux, un grand moment et une belle ambiance dans ce gymnase Pincourt.
Et justement, par rapport à ce qui a été annoncé par Nancy, est-ce que Mende a été très très fort ou est-ce que Nancy, finalement, par rapport à ce qu'ils ont annoncé, est un cran en dessous et...
Alors c'est vrai que franchement, on a été un peu surpris de cette équipe de Nancy qui vise vraiment la montée. J'ai pas vu vraiment une énorme équipe comme Tourcoing par exemple. Bon, alors, Tourcoing était certes en Ligue A quand on les a joués en Coupe de France professionnelle. Mais c'est vrai que quand même il y a beaucoup d'écart encore entre ce Nancy-là et Tourcoing qui a fini dans les 3-4 premiers de la Ligue A.
Monte d'élite quoi.
Voilà, donc tout à fait. Mais bon, moi j'ai trouvé vraiment des recrues de Mendoise vraiment déjà très opérationnelles. Le Brésilien Mineiro, donc qui arrive de Grèce, de D1 grec, vraiment impressionnant au service. Voilà, des mines qui dépassent bien évidemment les 5 km/h. On doit se rapprocher du 120 tranquillement. Et bon, vraiment, et en réception aussi, très très bon en réception. Vraiment, il a fait un énorme match. Et même chose pour le central moldave Mokanu, qu'on avait vu au pied court avec l'équipe d'Amiens, qui nous avait fait très mal l'année dernière. Bah, là aussi, il a fait vraiment une première partie à domicile vraiment tonitruante.
Et justement, la semaine dernière, on avait un peu parlé des stats. Loïc Alphonse avait mis 24 points. Ouais. Là, ce week-end, ouais, il en a encore mis 25.
Ouais. Encore, ouais. Et bien là aussi, vraiment transformé, je dirais, ouais, vraiment Loïc Alphonse, là, qui... Bon, on connaissait son potentiel, hein, on sait qu'il a... Bon, il jouait en élite, mais on savait qu'il avait le potentiel pour jouer au-dessus. Même certains disaient qu'il avait le profil d'un joueur de Ligue 1. Et bon, là, il est en train de faire voir que oui, en Ligue B, c'est vraiment un gros joueur de Ligue B. Et bon, il finira certainement un jour en Ligue 1 s'il continue à progresser. Là, l'intersaison, on a vu tout le travail spécifique qu'il a fait. Et franchement, tu le sens quand il tape le ballon, c'est beaucoup plus lourd. Ça claque et bon, je peux te dire, il fait des diagonales, c'est impressionnant. On a du très très grand Loïc Alphonse.
Puis derrière, ça marque des points aussi parce que t'en parlais, le central moldave Mokanu, ouais, a mis 13 points, Ninao a encore 12 points.
Ouais.
Et c'est un petit peu pareil que la semaine dernière après leur match à Cambrai, on avait parlé d'une certaine homogénéité dans les compteurs.
Oui.
Et ça semble se confirmer, on a l'impression que presque tout le monde peut marquer la dizaine, la quinzaine de points.
Voilà. Et alors, bon, c'est vrai que dans le total des points, bon, tu vois Ali Carboua, le capitaine qui lui est en retrait puisqu'il a mis que 4 points. Tu sens que bon, avec l'âge qui arrive, bon, puis c'est pas son poste au premier parce qu'il est réceptionneur d'abord et attaquant après. Bon, tu vois pour Ali, c'est quand même compliqué maintenant de marquer 10-15 points, puis c'est plus son rôle premier dans l'équipe, puisqu'il y a des Loïc Alphonse et le Brésilien Mineiro qui sont vraiment excellents en attaque, plus les deux centraux. Mais par contre, Ali, au niveau réception, et puis pour rebooster toute l'équipe, bon, un rôle incroyable sur le terrain. Et puis on a eu un constant au niveau tactique qui a été excellent, c'est-à-dire qu'au deuxième set, il a fait sortir son passeur numéro 1, donc l'Espagnol, l'a recru, Jesus Bruquet, et il a mis Paul Cooper tout au long du deuxième set. Et on a senti une équipe de Nancy un peu décontenancée par ce nouveau jeu différent, ce style différent de jeu. Et donc, voilà. Et donc il a remis après Jésus au troisième set et au quatrième set. Mais bon, voilà, ce changement de tactique, je pense que c'était un bon coup de notre coach favori.
Il aime bien Constant. Le faire, ça, de temps en temps, quand il, voilà, sait qu'il y en a un qui est un peu en difficulté, il n'hésite pas à changer les joueurs et ça marche.
Tout à fait.
Du coup, pour un promu, 4 points en 2 matchs, après le point pris à Cambrai la semaine dernière, là, les 3 points contre Nancy, comme tu disais, qui est annoncé un petit peu comme un favori. D'un point de vue purement comptable, bon début de saison pour le MVL.
Bah oui, excellent. Alors surtout qu'après, on a pu discuter avec tout le monde et presque tu sentais du regret par rapport à ce premier match, ouais, contre Cambrai où au final, franchement, je pense qu'on était plus près de la victoire, hein, en fait, que Cambrai.
Ouais.
Et ça s'est joué sur 2-3 détails en particulier. Bon, alors c'est vrai qu'on ne va pas tirer sur les arbitres, mais bon, d'après ce que tout le monde dit, il y a quand même eu une grosse erreur d'arbitrage, un petit coup de pouce du juge de ligne de Cambrai pendant le tie-break. Et c'est vrai que ça a un peu déstabilisé le MVL dans ce dernier match à Cambrai. Donc voilà, tu en viens presque même à regret. regretté d'avoir laissé filer un point à Cambrai, puisque bon, si on avait gagné, tu aurais marqué deux points au lieu d'un. Voilà, donc ça veut dire qu'on commence un peu à être gourmand, et bon, voilà, après il ne faut pas s'enflammer, c'est clair.
C'est le début de saison.
C'est le début de saison, mais bon, ça fait quand même du gros spectacle, et il faut profiter de ça, et cette chance d'avoir cette Ligue B.
Mais c'est ça, voilà. En fait, parce que je pense que pas mal de gens, finalement, à Mende, ne se rendent pas compte que c'est... C'est le deuxième niveau professionnel du volley, quoi. Ce serait un petit peu incroyable de se dire que l'AFL en foot est en Ligue 2.
Justement, tu parlais de spectacle, l'ambiance à Piancourt.
C'est vrai qu'il y avait. Alors je dis pas que c'est les gens étaient déchaînés, je vais pas aller jusque là, mais par contre il y avait une sorte de stupéfaction, tu vois, parce que on a assisté à des points où il y a eu des rallyes qui ont duré vraiment 4-5 échanges de part et d'autre, et les gens étaient plus stupéfaits, voilà, le terme c'est ça, que bon, ils se disaient mais qu'est-ce que c'est ce match, qu'est-ce que c'est ces équipes, et bon, on s'attendait à ce niveau-là, mais quand tu le vois, c'est vrai que c'est différent, et puis tu entendais les gens qui faisaient oh, c'est vrai que sur des services, bon, tout arraché. Des points aussi.
Il y a
eu des blocs. Bon, ouais. C'est vrai, il y a eu un nouveau ballon aussi, donc le son est quand même différent. Voilà, mais c'est vrai que après on a vécu une fin de match où dans le dernier set, ben, on avait 4 points d'avance, je crois, 24-20. Donc après, bon, il marque son service, on perd de 24-21. Donc service Nancy. Et puis donc là, voilà, tout le monde se levait comme d'habitude. Et puis deux services de Nancy. Fautant, donc vraiment pas le meilleur serveur de l'équipe de Nancy, et puis le ballon qui tombe, tout le monde se regarde, voilà, la peur de gagner, et donc un peu la peur qui envahit aussi les tribunes, et donc on se retrouve à 24-23, et qu'est-ce qui se passe, et donc ben, mauvaise réception, enfin, le ballon, et puis Loïc Alphonse qui récupère le ballon, il n'attaque pas, il pousse juste. Et puis bon, voilà, c'est contré, ça tombe, et puis voilà, tout le monde éclate de joie, mais une fin de match vraiment très haute tension.
Du coup, tous les voyants sont au vert, quoi, c'est ça que tu nous dis?
Ouais, tous les voyants sont au vert, et donc samedi, là, l'extraterrestre qui arrive, et voilà, Paris volé, 2-3-0, une équipe de Ligue A, un nouveau président pour Paris, certainement dans la semaine. Est-ce qu'il va faire son premier déplacement en terre lausérienne? Est-ce qu'Anne Hidalgo sera dans les tribunes à côté de Laura Ussuo? Voilà, c'est le défi qu'on lui lance. Bon, en tout cas, voir Paris, le club de Paris, en professionnel, en Lausère, c'est un clin d'œil quand même incroyable.
Ceci dit, c'est bien parce que là, on évoque le bon début de saison du MVL. Il y a de la confiance. C'est peut-être le meilleur moment pour recevoir cette équipe de Paris.
C'est vrai.
La troisième journée, ça peut permettre de faire quelque chose de grand, là, d'envoyer un petit message, quoi.
Voilà, puis surtout, tu es totalement libéré puisque tu as déjà 4 points. Bon, si tu as le classement, tu as des équipes qui sont à 0. Ouais. Donc, bon, sur ton objectif de laisser une équipe derrière toi puisque seul le dernier va descendre, ben, bon, voilà, tu es libéré pour ce match contre Paris. Donc, c'est vrai que tu pourras lâcher les bras, et bon, c'est vrai qu'on s'attend à quelque chose de grand, alors peut-être pas une victoire, mais ça serait bien déjà que Paris perde son premier set, et puis après, tu sais pas, peut-être que ben, tu seras à 2-2, et puis dans le tie-break, tout peut se jouer.
Ça peut faire un peu de folie, comme on l'a vécu en Coupe de France l'an dernier, ça peut aller vite.
Exactement.
Ouais. Il y avait bien évidemment une journée entière de cette Ligue B, donc il y a le CNVB qui s'est incliné 3-7-2 contre Saint-Quentin. Cambrai qui, mine de rien, a confirmé sa victoire de la semaine dernière puisqu'ils sont allés gagner 3-1 à Saint-Jean-d'Illiac, ils empochent 3 nouveaux points. Tu le disais, Paris a encore gagné 3-0 contre le Plessis Robinson. Avignon s'est incliné à la maison 3-0 contre Saint-Nazaire. Et Martigues a gagné 3-2 à Fréjus dans un match qui sentait bon l'élite de la saison dernière.
C'est ça.
Et on a la chance d'avoir autour de la table une spécialiste volée en la personne de Mathilde Cuminal qui va nous dire le classement qu'elle connaît sur le bout des doigts.
Ah ouais, par cœur. Paris est du coup premier avec 6 points. Juste avec Saint-Nazaire aussi qui a 6 points. Mende 4e. Non,
Mende a 4 points.
4 points, mais je n'aurais pu m'aider. Mende au milieu de classement, ouais, 5e. Avec Saint-Jean-d'Illac à 0 points, avec Nancy en bas du classement.
Il n'y a que dernier 0 points, c'est un peu surprenant quand on
connaît
la force de frappe de cette équipe.
Ouais, c'est tout à fait. Une équipe qui, bon, voilà, qui avait aussi des ambitions, bon, qui... On voit quand même que il faut s'adapter à ce nouveau niveau, et c'est pas toutes
Fréjus
les équipes
aussi, hein, aussi. Beaucoup de soucis à Mende l'an dernier, voilà, qu'un point.
C'est Marty Gaimand finalement qui se débrouille le mieux parmi tous ces promus, et bon, même le CNVB aussi qui sort deux défaites, mais deux fois 3-2. Bon, à voir, à confirmer. Tu n'as pas dit, mais Avignon aussi a perdu 3-0 contre Saint-Nazaire. Mm. Bon, Saint-Nazaire qui s'annonce aussi comme une des grosses équipes de ce pool. Un club qui l'année dernière aussi est allé jusqu'en demi-finale, je crois. Et donc, à voir aussi. Tout ça annonce de gros matchs pour les Lozériens.
Ouais, il n'y avait pas que l'équipe UNGMVL qui jouait, il y avait aussi sa réserve qui affrontait l'ASBAM. Les deux équipes étaient égalité avant le match, ils ont perdu 3-7-1, mais le MVL, l'équipe de Sofiane est encore dans le coup puisqu'elle est deuxième égalité avec 11 points avec Roubaix et Perpignan, à seulement 2 points de l'ASBAM. Par contre, c'est un petit peu plus compliqué le début de saison pour la R1 féminine puisqu'elles ont perdu 3-7-0 à Bédarieux sur des scores assez secs. Début de saison compliqué puisqu'elles sont dernières avec 3 points en 5 matchs, mais on sait que l'an dernier il n'y avait même pas d'équipe féminine, donc voilà. C'est normal que la saison mette un petit peu de temps à se lancer.
Alors la réserve qui joue un lever de rideau, oui. Juste avant la Ligue B, ouais. Et donc Sofiane Cadour, j'ai pu discuter avec lui après le match. Bon, c'est vrai que l'ASBAM c'est un club un peu spécial puisqu'ils étaient à 1-2 et puis finalement ils n'ont pas voulu rester à ce niveau, mais ils ont quand même gardé 3-4 joueurs de l'année dernière, donc ils jouaient à 1-2, donc c'est vrai que ça... De suite, ça élève le niveau de cette équipe. Et donc, c'est les fins de set qui ont été mal négociées au moment où ça se joue, le money time, comme on dit. Donc, voilà, c'est une défaite qui fait un peu mal quand même. Oui. Parce que s'il y a que le premier qui monte, ça va être compliqué. Mais bon, là aussi, le championnat est long. Et bon, on ne sait pas après, au niveau des montées et des descentes, il peut y avoir des surprises quand même en fin de saison. Surtout au volet, tout à fait, tu as raison. Mais tu parlais du Plessis Robinson, à Nancy, le pointu. Donc, il a un nom quasiment imprononçable, mais il vient de Wallis et Futuna. Et donc là, il joue à Nancy, il a fait un match énorme.
Oui, il a fini meilleur marqueur, 25 points.
Voilà, quasiment 30 points. Et,
c'est vrai qu'il a un nom imprononçable, parce que j'avais préparé sur l'affiche, mais je n'ai pas pris de risque.
Koulou Kilagi, un jeune, on a 22-23 ans, et il a fait vraiment un match incroyable. Il a eu un ou deux contres, mais vraiment, la première fois qu'il a été contré, tout le public a dit... à crier parce que tout le monde disait ouf, enfin un contre sur ce joueur vraiment talentueux quoi.
Ok pour le volley, donc rendez-vous on l'a dit samedi 20h30 pour le choc de ce début de saison face à Paris.
C'est ça.
Allez, on passe au foot et l'AFL qui se relance un peu dans son championnat N3 en disposant de Beaucaire 2-1 samedi au chapitre grâce à des buts de Paul Camizulis et Corentin Bourguet aux 56e et 79e minutes. C'est Beaucaire pourtant qui avait ouvert le score juste avant la mi-temps grâce à Accrour. Pendant ce match, du coup, l'AFL a retrouvé le chemin défilé pour la première fois en championnat, puisque depuis la deuxième journée et un match à la réserve de Rodez, ils n'avaient plus marqué. Et donc, par la même occasion, la victoire. Qui était au match samedi au chapitre? Qui veut commencer, Nico?
Allez, je trouve que l'AFL est bien entré dans le match, a fait 10 bonnes premières minutes. Derrière, la première mi-temps a été plus compliquée pour nous. Et ça s'est concrétisé par l'ouverture du score de Beaucaire juste avant la pause. Par contre, je trouve qu'on est rentré en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions. On jouait un peu plus au ballon, on était plus haut sur le terrain. Et ça s'est ressenti, ça s'est concrétisé par une belle tête de Paul Camizulis. Oui. Je me rappelle plus qui c'est qui le sert.
Sako.
Ouais, ouais.
Vraiment une jolie tête pour revenir à un partout. Et puis on a continué à pousser. L'entrée de Bourguet à 20 minutes de la fin a fait la différence parce que sur son deuxième ballon, je crois, qui marque. Oui. Il est lancé. On connaît toute sa vitesse. Il va très vite. Fin de centre où il embarque deux défenseurs. Il crochette. Il est sur son pied gauche. Petit filet opposé. Voilà, vraiment un joli but aussi. Donc deux buts de la jeune garde mandoise. Et après il restait une petite dizaine de minutes pour ramener les 3 points de la victoire. Donc c'est peut-être pas le plus beau match qu'on a vu au chapitre, mais un match accroché avec une équipe vaillante qui a rien lâché pour prendre ces 3 points de la victoire face à une équipe de Beaucaire qu'on sait qui est dernière au classement, mais de moi ce que j'ai vu dimanche, j'ai pas l'impression que leur place au classement reflète leur niveau de jeu, donc il y avait 3 points à prendre, ils ont été pris, voilà.
Patrick ?
Oui, première mi-temps, c'est vrai, compliqué, j'allais dire raté, c'est vrai qu'on a vu une maîtrise du jeu qui était pour les Gardois, Et donc c'est vrai que c'était assez inquiétant. Et bon, notre gardien, Jürgen Giroud, a retardé l'échéance au cours de cette première période. Et puis bon, c'est tout à fait logiquement, même si ça fait mal juste avant la pause, mais c'était quand même assez logique que cette équipe de Boker rentre au vestiaire avec un but d'avance. Alors on a vu un Fadil Gourmand assez énervé justement quand il a pris le tunnel pour rentrer au vestiaire à la pause. Donc on imagine que les murs ont dû quand même trembler pendant cette mi-temps. Et donc c'est vrai qu'on a vu un visage totalement différent en deuxième mi-temps. Bon, j'allais dire presque un nouveau positionnement des joueurs aussi, puisque j'ai vu a priori plutôt Leroux dans l'axe alors qu'il était plus sur l'aile en première mi-temps. Donc avec les mêmes joueurs mais positionnés différemment, et puis surtout une envie, une abnégation, et puis bon, dans les duels on a été beaucoup plus présents en deuxième mi-temps. Et donc c'est vrai que on a eu cette égalisation avec beaucoup de têtes décroisées.
Oui.
Et puis après l'entrée de Nicolas dit de Corentin Bourguet qui on le connaît mais pas tant que ça. Bon, vous le connaissez mieux que nous qui on vient surtout voir l'équipe première. Bon, vous êtes plus dans le club et vous le connaissez, mais moi c'est vrai que ce joueur, chaque fois que je le vois, je trouve qu'il a quand même, il a quelque chose, hein. Oui. Bon, il a vitesse certes, mais il a aussi
vrai que ce rôle de rentrer en fin de match comme ça pour dynamiter une défense. Je pense que quand le 2 de Boker, il a vu rentrer sur la première accélération, il a dû dire le dernier quart d'heure va être long, quoi.
Non, mais c'est vrai qu'il a fait 3-4 accélérations, 4-5 même. C'est vrai qu'il fait des différences énormes, quoi. Puis il a quand même une frappe de balle puissante. Bon, on l'a vu sur le but, mais moi je me souviens contre Canet, il était titulaire.
Ça frappe sur la barre.
Il avait fait un numéro sur le bord de touche. Il avait fait deux petits ponts ou trois petits ponts consécutifs. Puis il met une tire de 25-30. Bon, le gardien était totalement battu. Ça vient fracasser la barre. Bon, voilà, il a quelque chose. Il a quelque chose. Et c'est vrai que il a quand même fait basculer le match. Mais il faut pas oublier qu'à un partout, il y a un arrêt d'un autre monde aussi de Jürgen. Bon, moi franchement, d'où je suis passé dans les tribunes, je vois le ballon dans la lucarne opposé, puisque c'était une tire croisée là, un peu lobée d'un gars du Zest là. Et puis bon, il met cette main et bon, il détourne le ballon, et c'est vrai que ça aussi c'est un peu le tournant du match aussi, quoi.
Ah oui, s'il fait pas cet arrêt, je pense que c'est pas la même après.
Ouais, c'est clair.
Ça fait 2-0 au 60e à peu près, c'est ça?
Ouais, ça aurait fait 2-1, ça aurait fait 2-1, puisque on avait égalisé, mais bon, après pour revenir, c'est vrai que ça aurait été compliqué.
Ouais, mais c'est sûr que samedi, en tout cas, entre la première et la deuxième mi-temps, il y a eu un monde, parce que comme l'a dit Nico tout à l'heure, même si sur le premier quart d'heure, Mende avait la possession, c'était très très stérile, ils n'ont pas eu de situation, et puis petit à petit, Boker a pris confiance dans ce match, mais depuis entre la demi-heure et la mi-temps, on le sentait arriver le but, quoi. Il poussait, on s'est dit c'est pas possible, ils peuvent pas tenir comme ça jusqu'à la mi-temps, et même si ça se joue un peu sur un cafouillage, que le ballon est poussé, l'attaquant de Boker est sur la ligne, on sentait le truc arriver, et je te le confirme, les murs ont un peu tremblé à la mi-temps, voilà. c'est un peu chauffé là dans le vestiaire, mais je pense que certaines bonnes choses ont dû être dites, parce qu'il y a eu vraiment une bonne réaction en deuxième mi-temps. Et au final, quand on regarde le match, la victoire quand même est assez logique pour l'AFL. Au classement, du coup, Mende est quatrième, même si c'est vrai que c'était la septième journée. Depuis la deuxième journée, il n'y avait pas eu de victoire, mais les autres résultats ont fait que Mende reste dans le coup. Mende est quatrième avec 10 points, mais il est déjà assez loin du leader Alès qui continue d'impressionner, puisqu'en cette journée, ils ont autant de victoires, donc 21 points. Mais Mende n'est qu'à 3 points de la deuxième place et de cette équipe de Blagnac, et c'est la réserve de Montpellier Hérault qui complète le podium avec 12 points.
Et même comme tu dis, Alès, un peu un épouvantail parce que 7 matchs, 7 victoires, mais si on regarde le stat, ils sont quand même à 20 buts pour, meilleure attaque, la deuxième meilleure attaque, et à 8 buts pour. C'est
8 buts, ouais.
C'est pour montrer la différence, quoi. Voilà. Ça fait quand même une moyenne de quasi 3 buts par match, quoi.
Ouais, et puis surtout, ils n'ont pris que 4 buts aussi. Donc, ils ont, comme tu le dis, ils ont la meilleure attaque, mais ils ont aussi la deuxième meilleure défense du championnat. Et tout à l'heure, pour le volley, du coup, on évoquait un gros match avec la réception de Paris. La prochaine journée pour l'AFL, c'est pas mal aussi, puisque c'est justement un déplacement à Alès, du côté du stade Pibaro, le samedi 3 novembre à 19h. Donc on connaît, hein, y a beaucoup d'anciens Mandois qui sont partis à Alès. Donc même si en ce moment Aïssam Fadil est blessé, il y a Yanis Garbi qui est là-bas, Ibrahima Mbou, plus le coach Thora, ça s'annonce
plus chaud. Plus Jimmy Le Terme qui a fait un passage, c'est vrai, assez inoubliable lors de cette fameuse épopée où il a quand même, c'était un joueur majeur de cette épopée. D'ailleurs, notre ami Bernard Vanel, qui est aussi dirigeant de l'AFL et qui collabore avec nous à Lausanne Nouvelle, a pris cette photo qui a beaucoup fait parler dans le petit monde du football, le joueur de Rousson à la Coupe de France. Ben, ils étaient tous là et donc ils étaient dans les tribunes. Et donc Bernard a immortalisé la photo où il y avait les quatre anciens joueurs de l'AFL. Bon, il manquait que le coach Thora, mais il était aussi à Rousson pour justement observer cette équipe mandoise. Donc, tu parlais du 3 novembre, mais ce week-end, match aussi très importantissime. Sixième tour, un déplacement à Montauban contre une R2. Une R2 qui connaît un début de championnat compliqué. Et donc, ça se joue à 18h samedi.
Samedi à 18h, oui.
Donc, sixième tour, si tu passes, ça fait le septième.
Ça fait quelques semaines qu'on évoque ce septième tour.
L'entrée de la Ligue 2, un tirage au soir qui se fait à Paris. Et donc, les dotations qui vont avec. Et puis, on rêve un peu à ce qui s'est passé, en 2013.
C'est ça. Ça fait quelques temps qu'on évoque un peu cette Coupe de France dans cette émission. Et puis, finalement, les tours passent, quoi. Et sur le tirage au sort, même si c'est la coupe, on connaît tout le danger que peut représenter cette Coupe de France. À la vue du tirage au sort, aller chez une R2, ça peut représenter un tirage quand même assez favorable. Et on peut espérer un septième tour.
Ça serait pas mal. C'est vrai que ça serait bien, un gros match là, pour le septième tour.
De Béziers,
par exemple. À domicile, ou alors pas forcément une grosse équipe, mais au moins recevoir.
Ouais.
Pour espérer après un huitième tour et un 32e, comme on a connu. Après, c'est vrai que ça fait rêver aussi. On a de la chance quand même, Amand, d'avoir cette offre sportive qui, quand même, pour les passionnés, c'est vraiment intéressant. Quoi.
C'est vrai. Mathilde, est-ce que tu étais au match samedi? Est-ce que tu veux en dire un mot?
J'étais absente, j'avais un impératif. Merci Julien.
Pas plus sinon à rajouter sur ce début de saison de l'AFL, messieurs?
Non, mais on parlait de Corentin Bourguet, du coup c'est le meilleur buteur en championnat, je parle. Avec Mika Dovretas,
avec deux réalisations.
Ils sont à deux buts chacun.
La moitié des buts.
C'est ça.
Non, mais c'est vrai que Corentin, t'en parlais tout à l'heure, moi je le connais, c'est un copain, donc il est, c'est vrai,
toute
le plus souvent. Bah non, je connais des joueurs de la Une, je peux le dire.
Salut Yoyo.
C'est vrai que la plupart du temps, quand même, il est en réserve, mais c'est vrai qu'il a des qualités de vitesse qui sont incroyables. Il le démontre à chaque fois à l'entraînement. C'est une arme qu'on peut avoir. Et c'est faire rentrer comme ça un quart d'heure de la fin pour faire mal à une défense adverse, même à un niveau N3, et il a prouvé qu'il était tout à fait capable de le faire.
La vitesse est même plus impressionnante en vrai aux séances quand tu es à côté de lui que de la tribune, je te promets.
Ouais.
Non, mais une équipe de l'AFL qui était quand même... il y a des absents, il y avait des joueurs qui sont blessés, gravement blessés, puisque Sofiane Boisla, qui avait fait en quelques matchs, il avait fait voir tout son potentiel. C'était un joueur, un titulaire indiscutable, on l'avait vu de suite, sur son aile gauche. Il y a à la fois défenseur, milieu, même en attaque, une capacité à centrer de n'importe quelle position. Tout seul, un moment anodin, il se fait aussi les croisés, il a été opéré. Saison quasiment, saison quasiment terminée. Un coup dur, Johan Robert aussi qui est pas là, Nabil Zanina aussi blessé, Pierre Tessier qui pouvait pas jouer aussi. 4-5 quand même joueurs absents. Ça pèse aussi dans l'effectif de l'AFL. Et surtout des joueurs qui sont capables de faire cette passe. Dans l'analyse du match, on a vu qu'on avait des difficultés à mettre en place notre jeu, à créer des actions vraiment tranchantes. Mais parce que aussi, on a vu Fadil un peu s'énerver, on le disait tout à l'heure. C'est vrai que c'était compliqué pour lui de recevoir des ballons parce qu'il manquait aussi ces joueurs qui, en principe, lui font la passe, le démarque. Et c'est vrai que c'est compliqué de remplacer ces joueurs-là aussi, quoi.
Ouais, après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même un gros match de la défense centrale.
Oui, voilà, mais ça.
Benjamin Almeyras,
c'est Mika de Freitas. Depuis le début de saison, sur toutes les analyses des matchs qu'on a pu voir, à chaque fois, on s'est dit quand même que derrière, on n'est pas trop inquiété.
Comme dit Patrick, en plus, il manquait donc Pierre derrière.
Pierre, ouais.
Voilà, ça fait. Bon, il y a Robert aussi qui joue derrière, mais voilà, un gros match de la charnière.
On a pris que 6 buts en 7 journées. Donc,
entre Hesch et De Fret, ça va pas mal.
En sachant qu'il y en a 3 qui ont été pris contre Canet. Voilà. Truc un peu l'analyse entre guillemets, c'est sûr que derrière c'est solide.
Mais c'est vrai que du coup, la défense à 3 avait été abandonnée, on était vraiment dans une tactique à 4 défenseurs avec Fabre qui lui aussi n'est pas un latéral et donc qui dépend en latéral. Et du coup, Juliano Ramos qui en principe joue à droite, là il était arrière gauche et d'ailleurs c'est lui qui arrache le ballon sur le deuxième but. Dans un duel, voilà, un ballon qui est entre deux et puis il ressort parce qu'il il met l'intensité, il met l'agressivité, il ressort avec le ballon et puis ça débouche sur l'action de Corentin et le but du 2-1.
Ouais. Voilà pour ce championnat N3. La réserve de l'AFL a vu son match reporté à Metz pour une sombre histoire de tracteur qui n'arrivait pas à tondre la pelouse. J'en reviendrai pas plus.
Ils avaient peur de toi, ils avaient peur que t'ailles là-bas, que tu mettes doublé comme tous les week-ends et que ça t'arrive.
Ils ont vu mes stats, ils devaient pas être bien.
Ah mais ils écoutent cette émission en podcast et c'est vrai que ça, c'est viral comme on dit.
Ils ont eu la pression.
Ouais, je pense. Ouais. Du coup, ce match de Metz devrait être reporté là, du coup, à ce week-end puisqu'il n'y avait pas de match de prévu. Et si jamais ça venait à pas être reporté là, le prochain match de la réserve de l'AFL est dans 2 semaines contre Chusclan, le 4 novembre à Roufiac. Et avant de parler de ce championnat de l'équipe 3. Avec apparemment un certain Nicolas Thomas, on va vous passer une petite musique pour se reposer. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utibi waze. Kana muyo kairi hana inrupia jana halawa mauduka jaja leonde ulio mauduka jaja. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Ndaliyo wa hanzao wasi hendro wote wa hukumu hata liwazaze tabu. Waona eshelea zenjema zahao wakubali leo tilinde mautu. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one need you most, the one far from home, the one that fills your soul. Take care of the one that holds your hand when it's cold. Come on, Zo, I know that you know. Come on, Zo, I know that you know. Simbi hoto zamba daima bainu dunia izo kweli mahaba kaya bai uhara. Come on, Zo, I know that you know. Come on, Zo, I Allez, on est de retour. Et donc, avant cette pause musicale, on évoquait le championnat de Détroit-Lozère, l'équipe 3 de l'Avenir Foot Lozère qui a fait un partout contre le Massegro, but de Maxime Tessier. Nico, un mot sur le match d'hier, puisqu'il paraît que ça y est, t'as enfin retrouvé tes crampons dans ton placard et t'étais au cause d'agir.
Exactement, j'ai retrouvé mes crampons et dans un état. C'est mon premier match depuis 5 mois, que j'avais fini d'ailleurs avec toi et à Anduze.
C'est vrai.
Tant te dire qu'hier soir à 18h, j'étais au bout de ma vie. Voilà, 1-1 contre le Massegro. Je pense, très grosse 20 premières minutes où on joue vraiment pas mal au ballon, on marque le premier but. Je pense qu'on aurait pu tenir ce rythme tout le match. Je pense qu'il n'y aurait pas eu photo, mais bon. En 3, voilà, entre les anciens, entre les mecs comme moi qui n'ont rien fait depuis 5-6 mois, machin. Enfin voilà, on a des niveaux physiques très disparates et on a largement baissé le pied au bout de 20 minutes, demi-heure. Moi j'ai l'impression que ça faisait 2 heures qu'on jouait déjà, mais bon.
Il n'y a pas eu de pause fraîcheur en plus,
chaleur. J'ai bien essayé de la demander, mais on s'est moqué de moi quand j'ai demandé une pause fraîcheur le 20 octobre.
Tu n'as pas fait de pause fraîcheur, oui.
Donc du coup, voilà, donc une équipe du Massegro, comme on connaît, accrocheuse, voilà, qui rentre dedans, mais c'est quand même resté très correct. L'équipe qui égalise en deuxième mi-temps, voilà, on aurait pu perdre ce match sans un sauvetage sur la ligne de Sebrovol. Ouais. On aurait peut-être aussi pu le gagner en maîtrisant un ou deux coups offensifs, notamment en fin de deuxième période un peu mieux, mais le 1-1 reflète bien le match, je pense.
Ouais. Mathilde, tu connais les résultats de ce championnat?
Bien sûr, Julien, par cœur. Au Mans a gagné 3-2 contre Montroda. Marvejol a gagné 5-1 contre Montégoal. Et le Chastel-Nouvel a gagné 3-2 contre le Valdo.
Voilà, ça permet un petit peu de mettre à jour le classement, même s'il y a encore des équipes qui ont 3 matchs et d'autres qui en ont 4. Mais voilà, Marvejol est premier avec 9 points, le Buisson aussi a 9 points, et Montroda et Mende ont 7 points. Badarou 6, comme au Mont-Aubrac, le Massegro 4, le Chastel 3, le Valdo 1, et Montégoal, qui avait perdu un match par pénalité, est à moins 1 point.
Si on peut revenir juste sur l'arbitrage, oui, qui a été excellent au centre, mais aussi à la touche.
Oui, c'est vrai que j'étais à la touche, mais bon.
Allez, ça s'appelle encore.
Les autres clubs lozériens étaient également sur le pont ce week-end. Le NL en R3 a fait 0-0 contre la réserve de Saint-Flour. Après 4 journées, cette équipe de l'Entente Nord-Lozère est 6e sur 12 avec 5 points. Langogne, on l'avait évoqué il y a 2 semaines dans cette émission, jouait un petit peu déjà un match pour la peur puisqu'ils recevaient Ali Moria, qu'ils étaient égalité au classement. Ben, y a eu un partout. Langogne aussi, donc, est en R2 cette année, après 4 journées, n'a que 2 petits points, 2 nuls, 2 défaites. Et en D2, le Buisson recevait la 2 du Stade Beaucairois, donc la réserve de l'équipe qui est venue affronter l'AFL samedi au chapitre. C'était un duel entre les deux premiers du classement, puisque les deux équipes avaient remporté leurs 3 premières journées. Beaucair s'est imposé 2-1 au Buisson dimanche après-midi, et donc désormais seul en tête. Mais le début de saison de cette équipe du Buisson est très très bon, puisqu'ils restent deuxième avec 9 points en 4 journées, et donc ça leur fait 3 victoires et une défaite. Et enfin, également en D2, mais dans l'autre poule, Foot-Sud Lozère recevait Saint-Christol-les-Alès, et les Gardois se sont imposés 2-0. Là aussi, le début de saison du FSL est relativement correct, puisqu'après 4 journées, ils ont 6 points, 2 victoires et 2 défaites.
Juste pour revenir, ce qui est marrant, c'est avec le Foot-Sud Lozère, c'est 2 victoires à l'extérieur et 2 défaites à domicile.
Pour revenir juste sur le Buisson, Farid Mihilesi, qui faisait la touche, nous disait que un match nul n'aurait pas été démérité.
Ouais. Voilà. Ouais, il paraît que c'était un beau petit match. Un mot, il n'y avait pas de foot, on va en profiter d'avoir et coach et joueur autour de cette table, il n'y avait pas de foot pour les féminines ce week-end, puisque c'était un week-end de repos. Par contre, ce week-end qui arrive, il y a un match qui s'annonce plutôt pas mal.
Alors déjà, il y avait un week-end de foot pour les féminines, pour les U17. L'équipe Acelia Entraigues, que je ne sais pas si tu connais, qui a eu le tarif habituel en championnat, enfin une victoire, une défaite. Voilà. Pour cette équipe du 17 qui est présente depuis cette année et qui démarre bien. Pour les filles, non, ce week-end, on était au repos footballistique, je ne parlerai pas du reste. voilà, ben, ce week-end, ben, gros match. On reçoit LAT en Coupe de France, premier de R1, pour avoir regardé un peu les stats et les résultats.
C'est pas mal.
C'est plus que pas mal, ça tourne bien.
Ça va être sympa.
Donc voilà, ben, un match, comme j'ai dit aux joueuses, qui pourront en témoigner, mais intéressant à jouer quand on est joueur, enfin, recevoir le premier de la division d'au-dessus, enfin... Je pense qu'on fait tous du sport pour ça, pour se confronter à ceux qui jouent au niveau au-dessus. Donc voilà, après, on fera le match qu'on a à faire. Et puis, je pense que ça serait une bonne expérience. Et puis, qui sait, c'est la coupe.
Hein. Ouais,
tout est possible. En tout cas, si vous ne savez pas quoi faire dimanche après-midi, les filles auront besoin de votre soutien.
À quelle heure? Vas-y.
15h.
15h,
cause d'auge, terrain du milieu.
C'est vrai qu'il y a tout pour que ce soit un beau match. Mathilde, un mot sur ce match?
Ouais, ça va être compliqué, mais bon, on a envie, on sait jamais. Hein.
Bah ouais.
Et sur un malentendu.
On évoquait tout à l'heure pour les garçons on la magie de la coupe, ça peut.
En plus, il prévoit une chute des températures avec de la neige.
voilà.
Tout le monde est mécontent. Moi, depuis que je sais ça, je suis ravi. Je me dis que s'ils arrivent de là et qu'ils perdent 15 degrés, on ne sait jamais.
Et du coup, match donc dimanche contre Latte, mais tu peux déjà connaître ton futur adversaire puisque le tirage de tour d'après est demain.
Laisse-moi jouer contre Latte.
Voilà pour l'actu foot, on va passer au hand et le MGC qui recevait le leader Espalion samedi à la Vernède. Les Mandois ont fait 23 partout. Alors à la lecture du résultat, faire 23 partout contre le leader, ça ressemble à quelque chose de bien, mais quand on connaît le résultat à la mi-temps, puisque les coéquipiers de Jérémy Roux menaient 16-9 à la mi-temps, donc 7 buts d'écart, mais malheureusement un gros trou d'air en deuxième mi-temps a fait que ils doivent concéder le nul. Est-ce que quelqu'un était à la Vernède? Non, personne.
Moi, j'avais dit toi mon impératif, je ne pouvais pas.
À part moi, je vais en parler un petit peu, alors, puisque c'est vrai que j'y étais. Début de match équilibré entre les deux équipes, puisque à la 20e minute de jeu, il y avait 9-9, ça se rendait coup pour coup. Et puis, très très grosse 10 dernières minutes de cette première mi-temps pour le MGC, puisqu'ils ont tout simplement infligé un 7-0 au leader Espelion. Il y avait dans la Vernède une sacrée ambiance, Gaëtan Roche dans les cages a sorti quelques parades décisives devant tout le monde était efficace face au but. Et puis en deuxième mi-temps, ils ont pris quelques buts. Alors dans la Vernède, le sentiment qu'il y avait, c'est que ça s'inquiétait pas trop, puisque même si Espalion revenait à 3-4 buts, il y avait toujours cette marge. Mais le problème, c'est que l'efficacité qu'il y a eu en première mi-temps n'était plus trop là en deuxième mi-temps. Et jusqu'à ce que cette équipe d'Espalion prenne l'avantage à 19-18, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et à ce moment-là, il restait 10 minutes. Et là, par contre, on a senti vraiment un vent d'inquiétude dans la Vernède, y compris sur le parquet. On sentait vraiment des joueurs qui commençaient un petit peu à perdre les pédales. Moment choisi aussi par le coach pour faire un changement qui sera avéré décisif, puisque Gaëtan Roche est sorti en laissant sa place au deuxième gardien Robin, qui en un quart d'heure de jeu a fait 8 arrêts. Quand il est rentré, là, tous les face-à-face, il a sorti les premiers, il a pris l'avantage psychologique sur les attaquants. Ça a redonné confiance à tout le monde. Et par contre, la fin de match, il y avait une tension incroyable. Les gens se prenaient la tête à chaque fois qu'il y avait des ratés. Ça applaudissait dès que Robin faisait des arrêts. C'était vraiment un super match de Prénat. Et puis, à 5 minutes de la fin, si je ne dis pas de bêtises, on est à 21-21. Ça se rendait coup pour coup. Jusqu'à la dernière action où à 30 secondes de la fin, le coach d'Espalion poste en mort pour pouvoir repartir propre sur attaque placée. Le décalage est trouvé, l'ailier d'Espalion fait zone. Et alors là, c'est tout la Vernette qui s'est levé comme un seul homme. Il restait à ce moment-là 10 secondes. Mande est parti en contre et face à face avec le gardien, malheureusement poteau. Et c'est vrai que si Mande marquait ce but-là, je pense que la Vernette s'écroulait. Mais moi en tout cas, je me suis vraiment régalé pour ce match de Prénat. On en parle depuis le début de saison, de la difficulté un petit peu des jeunes à se faire à ce niveau-là. Je pense que petit à petit, ils vont tous prendre en expérience, bien encadrés par Robin, Jérémy et aussi Olivier. Plus le retour aussi ce week-end, il y avait Rémi Pourchet qui était sur le terrain. Il a fait du bien, Rémi, sur le terrain. Mais à la vue de ce match, je pense que la phase retour, puisque ce week-end c'était déjà le dernier match de la phase aller, la phase retour peut être positive. Voilà pour ce qui peut en ressortir de ce match. Patrick, même si tu n'étais pas à la Vernette, tu as peut-être eu des échos.
C'est vrai que moi, tout le monde m'a dit cette ambiance. C'est vrai que le gymnase, il y avait une tension dans les tribunes et sur le terrain, bien évidemment. Et donc c'est dommage parce que on voit un peu ce scénario qui est depuis le début de la saison avec une équipe du MGC qui est dans le coup, qui même est souvent aux avant-postes. Et puis, il y a toujours les 10, 10-15 minutes un peu en deuxième période où ça devient compliqué et ça remet tout en question. Bon, alors là, le résultat nul est préservé. C'est, bon, après 4 défaites, donc bien évidemment, c'est un soulagement parce que la spirale est stoppée. Mais après, avec la nouvelle formule instaurée cette année, c'est vrai que ça fait pas les affaires, puisque il faut le rappeler, c'est les 3 premiers qui vont faire les playoffs. Donc le classement, c'est Saint-Affrique 13, Espalion 12, et après Cahors et Carmaux qui sont à 11. Et donc toi, tu n'es qu'à 6, donc tu as déjà 5 points de retard sur le troisième. Il reste 5 matchs, puisque comme tu l'as dit, on a fini les matchs aller. Donc voilà, ça va être quand même compliqué de se qualifier pour les playoffs, ou alors il faut faire une deuxième phase quasi parfaite. Ouais. Pourquoi pas, peut-être que ça va libérer tout le monde.
Ça peut faire du bien. Quand
voilà,
même,
parce que bon, Espalion, comme tu l'as dit, ils étaient avant ce match-là à 3 victoires et une seule défaite. Donc une équipe qui, elle, vise bien évidemment les playoffs. Donc ça peut être un déclic, en tout cas on l'espère, et parce que c'est vrai que le MGC, on l'a dit, a changé totalement de philosophie, hein. Il est reparti avec quelques anciens et que des jeunes du club. Voilà, tu es toujours dernier au classement, mais il faut espérer que cette phase retour va surtout préparer la deuxième phase qui, là, sera vraiment hyper importante, parce que si tu ne te qualifies pas pour les playoffs, bien sûr, l'objectif sera... Il faut, oui, bien sûr, rester bien sûr, en pré-national. Une descente serait catastrophique, je dirais même cataclysmale pour l'avenir du club.
Oui, bon,
peut-être que j'exagère un peu, mais bon, ça serait quand
surtout
même...
Surtout en lançant des jeunes comme ça.
Exactement.
Ça ferait mal. Ouais. Deux, trois stats rapides. Donc, j'évoquais Robin, il a fait 8 arrêts. Gaëtan aussi a fait 10 arrêts. Et au niveau des buts, Robin a mis 7 buts et Corentin Cuo 4. Et ensuite, Olivier et Jérémy ont mis 3 buts chacun. Par contre, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une chose qui ressort depuis le début de saison, c'est la défense quand même. Hein, parce que même si bon, il y a eu un trou d'air, ils ne prennent que 23 buts. Donc c'est plutôt une bonne chose. Petite trêve là pour le MGC, puisqu'ils ne sont pas en Coupe de France, ils sont exempts.
Voilà.
Et donc prochain match le 11 novembre à Carmaux. Donc tu le disais sur le classement, Carmaux à 11 points et Mende à 6 points. Donc c'est peut-être un bon moment pour recoller un petit peu à ce wagon, pour essayer d'accrocher quelque chose.
Voilà, c'est le moment de gagner le premier match et pour justement poursuivre sur la lancée dans ces matchs retour.
Ouais. Les féminines également engagées en pré-national recevaient le leader Lunel et elles sont sorties vainqueurs de leur match 29-26. Avec ce résultat, ça fait un gros resserrement en tête puisque comme les garçons, elles sont 6 dans la poule et elles sont 4 à être première égalité avec 12 points. Donc c'est un championnat qui a l'air très très homogène et derrière. Donc pour être précis, c'est Aramon, Lunel et Bouillargues qui sont égalité avec le MGC. Frontignan est 5e avec 7 points et le MUC est dernière avec 4 points. Voilà pour le MGC.
La différence par rapport aux garçons, c'est qu'on disait des 3, mais là, les filles, c'est que 2.
Oui.
Donc, c'est que les 2 premières qui vont faire les play-offs. Donc, il va y avoir un mano à mano entre ces 4 équipes assez impressionnant. Hein. Oui. Donc, d'où l'importance, bien sûr, d'avoir arraché cette victoire contre un candidat à ces play-offs.
Elles étaient premières avant le match, donc là, elles recollent. Donc c'est un bon résultat. On passe au Hand Nord Lozère. Alors carton plein ce week-end pour les équipes seniors du handball Nord Lozère. L'équipe 1 s'est imposée 33-28 face à la réserve du HCV. L'équipe réserve du handball Nord Lozère n'a fait qu'une bouchée de Mauriac en gagnant 42-14. Les pré-nationales féminines ont également écrasé la réserve du Stade Clermontois 44-12. Et les départementales féminines ont battu Saint-Mamé 28-17. Pardon. Bon week-end pour l'handball Nord Lozère. Ouais. On sait qu'on est écouté là-bas. Donc,
voilà, alors fais gaffe à Floubaudin parce qu'il s'est dit handball.
Il doit
criser devant ses écouteurs. Avec ses écouteurs, c'est handball hein, parce que c'est allemand et pas anglais. Donc, bon, voilà. Mais en tout cas, pour l'handball Nord Lozère, c'est vrai, 44-12. Bon, je crois que. À la mi-temps, il y avait déjà. Ils ont marqué 5 ou 6 buts, je crois, les adversaires. Donc voilà, c'était réglé. C'est vrai qu'on sait qu'il y a une grosse équipe de filles sur Saint-Chély, Saint-Alban, et donc avec de grosses ambitions. Bon, c'est que ben, ce championnat pré-national, il y a 2-3 équipes qui vont lutter contre elle. Ben, on espère fêter la montée et on les invite déjà, si c'est le cas, à venir mettre le souk dans ce studio. Alors Ludo n'est pas là, c'est pour ça que j'en profite. Donc on a vu que Karabatic un jour avait détruit le plateau de l'équipe TV. Donc,
et je pense que s'il détruit, je pense que Ludo il sera pas content de la
et c'est pour ça
que
je profite qu'il n'est pas là pour le dire. Mais en tout cas,
ça parce que Flo Baudet il va te croire, il va chauffer ses pieds à plat, tu vas voir. C'est pas la radio qui va te retourner, c'est tout le bâtiment.
Dans chaque causerie, là, tu leur as donné une idée. Là.
Il va être motivé.
Objectif instant score.
Objectif le studio de Karabatic TFM. Bon, en tout cas, chapeau, chapeau d'avoir laissé ce sport dans ce secteur du Nord Lozère, avec les résultats qui sont là, les garçons qui vont monter en puissance aussi. Donc, chapeau à tous ces bénévoles.
Voilà pour le hand. Le basket ne jouait pas, le rugby.
Non, le rugby, il y avait une journée de championnat, mais comme il n'y a que 9 équipes dans la poule, c'était au tour de Mende d'être exempt. Ouais. Et par contre, ce dimanche, y a encore une journée de championnat, et donc le RCML reçoit Morellan-Montady, donc la fusion de ces deux villages à côté de Béziers. Donc un beau match en perspective, et pourquoi pas. Alors c'est hyper serré, à part Lunel qui écrase tout, qui est un peu le Alès du rugby, donc Lunel qui écrase tout dans cette poule honneur. Après c'est serré, puisque même 7 a pris un carton là, ce week-end, donc de la deuxième, troisième place jusqu'à la fin, c'est hyper serré, donc il suffit d'une victoire pour revenir dans les places qualificatives pour les phases finales.
Voilà pour l'actu lozérienne. Est-ce que vous avez des choses à rajouter?
Non, pour ajouter que j'ai marqué mon premier point.
On va y venir, Patrick.
J'étais tellement impatient.
J'ai une petite info sur l'actu lozérienne. La victoire de Vincent Messonnier au concours de pétanque de Anglade samedi après-midi.
Ouais. Voilà. C'était précis. Bravo, Messon. C'était important de le préciser. Allez, on va passer au prono, puisque Patrick est impatient. Donc la semaine dernière, c'est vrai, on avait parié sur le match de Ligue des Nations France-Allemagne et tu avais découvert le bon résultat de
2-1. J'avais dit 2-1 et
tu avais senti le doublé de Griezmann.
Voilà, exactement. Et puis j'avais senti ce penalty allemand. Voilà, donc ça me fait un point.
Ça fait un point, du coup tu me rejoins en tête.
Exactement.
Et comme vous pouvez vous ne pas le voir derrière votre radio,
il y a toujours pas. Non mais là, toujours là, pas le classement. Là je pense qu'il va le mettre, étant donné que j'ai marqué un point, donc il va le mettre. Maintenant.
Moi je vois rien d'écrit, donc pour moi tout le monde est à égalité, c'est mon point.
Là ça y est, c'est lancé, on est deux à avoir mis un point, donc normalement Ludo, la semaine prochaine, il y aura...
Des preuves.
Il y aura des preuves écrites. Du coup, vu que Mathilde tu es là, on va te laisser le choix pour aujourd'hui. Tes pronostics, est-ce qu'ils comptent ou pour Ludo ou pour Laurent?
Ah là là, il va être content.
C'est toi qui décides pour qui tu veux que ça compte. On va parier sur les 3 matchs des clubs français en Ligue des Champions. Donc Lyon qui se déplace à Hoffenheim, Monaco à Bruges et le PSG qui reçoit Naples. Pour qui tu veux compter tes points?
Allez pour Ludo.
Allez,
c'est
pour
cadeau.
Ludo. Allez, bah, du coup, tu vas commencer. Hoffenheim-Lyon.
Allez, je tente le 3-1 pour Lyon.
3-1 pour Lyon. Nico?
1-2. 2-1 pour Lyon.
Patrick?
1 partout.
1 partout. Ok, et eh ben moi je vais dire, parce que je pose les questions mais j'ai pas du tout réfléchi à la chose, je vais dire 1-0 pour Lyon. Allez, Bruges-Monaco, Mathilde, enfin Ludo.
Salut, je dirais du coup 1-0 pour Bruges.
Ah, d'accord, donc toujours pas de sport pour Titi Henry.
Non.
Nico,
match nul... Allez, un partout.
Un partout. Patrick?
1-0 pour Monaco.
T'es ambitieux.
Ouais.
Avec Thierry Henry, ça va aller mieux.
Moi, je vais tenter.
Sauf si le gardien, remarque, ils n'ont pas de gardien en ce moment. Donc c'est vrai que.
Si c'est qu'un gardien qui ne savait pas en ce moment.
Moi, je vais prendre un risque. Je vais dire 2-1 pour Bruges. Soyons fous, nos amis belges. Et enfin, le choc.
Si on perdra Bruges, c'est abusé quand même.
On verra bien.
Ouais, non, mais c'est
j'ai un point. J'ai déjà un point de plus. Enfin, j'ai déjà pareil que toute l'année dernière. Je peux prendre des risques.
On ne sait jamais, hein, tu sais, sur un match.
Attention avec la Belgique, parce qu'avec toutes les histoires de Paris et de matchs truqués, attention, tout est possible en Belgique. Hein. Les arbitres, 2 arbitres suspendus à vie.
Surtout que Thierry Henry les connaît bien, donc aussi bien le match est déjà rangé, les gars.
Ça fait mal quand même.
Et donc, dernier match des clubs français, le choc un peu de cette journée de Ligue des Champions, Paris-Naples.
Un peu beaucoup, le gros choc.
Un peu un gros match, Mathilde.
2-0 pour Paris.
2-0 pour Paris. Nico.
2-2.
Ok, Patrick.
2-1 pour Paris.
Ouais, mais moi aussi je vais te suivre, Patrick, je vais dire 2-1 pour Paris.
Tu te mouilles vachement, quoi.
Non, mais c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire, je vois bien.
Il, de, t'as vu, il commence jamais et finit, ouais. Tu vois. Comme ça, il
est.
Il peut calculer.
Non, c'est tout. Je vois bien Cavani, là, faire quelque chose contre son ancien club. Mais il n'y a pas Ludo, c'est dommage, parce que je pense qu'il aurait aimé qu'on parle de Montpellier.
Ouais, Montpellier. Oui, c'est clair.
Là, il faut en
c'est
parler clair. Quand même. C'est même clair. S'il n'est pas là, il va nous écouter, je pense. Montpellier qui a disposé de Bordeaux hier en Ligue 1 2-0 et Montpellier qui est 3e de Ligue 1, égalité avec Marseille, 19 points.
Et d'ailleurs, bah, le lundi prochain avec Nico, on va mener le champagne puisqu'on aura atomisé Paris en championnat.
Exactement.
Donc, voilà, on sera aux anges, on sera sur notre petit nuage.
C'est exactement ce que j'ai dit à Julien hier, tu vois. Nice s'est réglé, même si c'était une purge le match. Maintenant, passe aux Parisiens.
C'est vrai qu'hier,
Flo Baudet, si tu nous écoutes,
voilà.
j'avais pas de commentaire.
3-2 pour Nice. Je pense que je m'étais un peu enflammé.
Voilà, Bounassar, si tu nous écoutes, si on mène 2-1 à la dernière seconde, interdiction de faire une faute, parce que c'est vrai que.
Bounassar, moi... d'ailleurs, qui a déclaré dans la presse qu'il avait reçu une pré-convocation pour le dernier rassemblement des Bleus.
D'accord. Comme quoi. Mais en tout cas, je m'en suis toujours pas remis de ce coup franc de Cavani.
De Cavani. Donc,
on espère l'effacer dimanche lors de ce gros choc.
Paris qui est à 10 sur 10,
oui.
10 matchs et
victoires. C'est un petit peu le Alès de Ligue 1. Donc, ou alors Alès et le Paris de N3, comme vous voulez.
On choisit.
C'est vrai.
Ça te fait peur, Nico ?
Non, mais enfin, quand tu es joueur, c'est d'autant plus intéressant. Quoi. Tu joues un classico à domicile, l'équipe marche sur l'eau. C'est le meilleur début de championnat depuis le début de l'histoire du championnat.
Oui,
enfin, je veux dire, il y a tout pour avoir envie de les faire tomber.
S'ils font
quoi.
Une 11e victoire d'affilée, j'ai lu qu'ils pouvaient égaliser un vieux record de Tottenham qui date de 1947, je crois. Donc, comme quoi, c'est pas.
C'est sachant que le tarif, c'est 3 buts par match avec Paris depuis le début de la saison. Donc.
Ouais, c'est vrai. Mais j'ai hésité en plus sur ce Marseille-Paris-là, le mettre dans les pronostics. Mais je me suis dit, vu qu'on était en semaine de Ligue des Champions, quand même, 3 matchs, c'était suffisant. Mais si on faisait des paris officieux, tu dirais quoi, Nico ?
Ah non, je sais pas. Tu paries avec le cœur, là, c'est un problème.
Patrick, il va parier.
Ouais,
moi,
je parie 2-1 pour Marseille. Si tu vois, je te le dis, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y en a, qui nous écoutent, hein, qui peuvent parier ce qu'on dit, et ils peuvent gagner des sous. Parce que bon, si quelqu'un m'a écouté pour France Allemagne, s'il a mis 50 euros, bah, je sais pas combien était la cote, mais bon.
Ton 2-1 a marché pour France Allemagne, voilà. Du coup, Marseille-Paris.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Ok, bah, par contre, un mot quand même sur Lille, qui est toujours deuxième, qui tient la cadence. Bon, ils ont 22 points, ils ont perdu 2 fois, mais ils sont déjà à 8 points du PSG. Quoi. Je vais poser une question qu'on appelle un pavé dans la mare. Est-ce que le PSG est déjà champion de France ?
Oui.
Ils sont champions de France avant de commencer le championnat à Paris.
Non, mais c'est vrai que là, cette année, il y a quand même... c'est écrasant. Quoi. Bon, en plus, il y a des joueurs qui sont transformés par rapport à ce qu'on avait pu voir les années précédentes. Bon, en particulier Di Maria, qu'on a du mal à reconnaître, hein, qui redevient le joueur qu'il a été il y a 5-6 ans avant qu'il débarque sur Paris. Donc, chapeau, Mbappé, voilà. Et puis, bon, Neymar, si Neymar entre dans la philosophie... mais je pense que le coach allemand, il a compris. Quoi. Il compose avec ce joueur. Alors, il y en a. Moi, je pense que quand tu es entraîneur, ça va peut-être en faire bannir certains, mais quand tu es à ce niveau-là, avec des joueurs de ce niveau-là, avec une telle rémunération, c'est vrai qu'il faut peut-être accepter que alors le patron, entre guillemets, ça peut être aussi le joueur. Donc, il faut accepter quand tu es coach de dire à Neymar on a un match de championnat contre Amiens. Eh bien, se dire, il ne sert à rien, parce que de toute façon, même si on perd, on sera quand même champion de France. Mais pendant ce temps, tu vas aller avec tes potes et avec ta copine. Bah, en plus, il n'est plus avec, mais bon, voilà, c'est la rubrique people. Mais il faut accepter. Alors, il y a des entraîneurs qui te diront, non, Neymar, il y a un match de championnat, même s'il est rentré tard du Brésil parce qu'il était avec l'équipe nationale, il va quand même s'entraîner, il va quand même jouer, ou je vais le mettre sur le banc, il va jouer un quart d'heure, mais il sera là avec nous. Bon, je sais pas. Il y a quelques années, j'aurais pas tenu ce discours-là, mais maintenant, je pense que c'est à l'entraîneur à s'adapter. On peut le regretter, mais je pense que c'est comme ça.
Ouais, puis surtout quand on voit le match de ce week-end où contre Amiens, ils ont pas vraiment forcé, ils arrivent quand même à gagner 5-0.
Ouais, mais tu sais ce qu'un coach t'aurait dit. Il dit vis-à-vis des autres joueurs, il faut absolument qu'il soit là parce que sinon, ça veut dire qu'il est plus important. Mais bon, si tu es entraîneur et que tu te dis que Neymar, il est pas plus important qu'un autre joueur. T'as raté un peu quelque chose, parce que Neymar, quand même, quoi qu'on en dise, il est plus important que Kurzawa ou même Rabiot, je te dis.
Ah oui, non,
chemin, quoi, voilà.
Après,
donc, bon.
Après aussi, il faut voir.
Mais toi, tu coches, Nico, c'est vrai que c'est compliqué.
C'est aussi un état d'esprit. Tu vois, des mecs comme Messi et Ronaldo, qui jouent les Ganes, Retafe ou Sassuelo, ils s'en foutent, ils veulent être titulaires et ils veulent en planter trois. Quoi. Neymar a peut-être pas cet état d'esprit-là, mais après, c'est sûr qu'il faut composer avec tout le monde.
Après, c'est vrai, comme le disait Patrick, peut-être que sur ce week-end, c'était un peu particulier parce qu'il revenait, Brésil, fin de la sélection. Ouais. Donc, peut-être qu'il a senti qu'il avait besoin de repos, surtout
Naples. Tu sentais que le prédécesseur, Emery, il était braqué là-dessus. Quoi. Il disait Neymar, c'est un joueur comme un autre. Bon, il faut qu'il m'écoute. Et puis s'il ne m'écoute pas, et ouais, mais bon, au final, après, si le mec après est sur le terrain, parce que tu vas être obligé de le mettre. Si tu ne mets pas Neymar vis-à-vis de. Après, comment tu vas justifier le fait et j'ai Neymar, 220 millions, il n'est pas blessé, je ne le fais pas jouer parce qu'à l'entraînement, il a couru que 10 minutes sur un quart d'heure. Donc il le faisait jouer, mais il le faisait jouer, l'autre il ne pouvait pas le voir, lui aussi il avait des réticences, et ça fait ça. Quoi. Je pense que le grand truc de ce nouvel entraîneur allemand, c'est ça, une philosophie, une sorte de management complètement différent.
Et
je pense qu'à mon avis, quand il y a un club comme Paris, je pense que c'est ce qu'il faut faire.
Ouais. Après là où je te rejoins, c'est qu'avec l'effectif qu'ils ont... La moindre petite alerte, tu prends pas de risque, quoi.
Voilà.
Franchement, tu n'as pas besoin, quoi.
C'est ce qu'ils ont fait, Verratti, un peu, et puis pareil avec...
La moindre petite douleur,
Moussa Diaby qui rentre, qui marque, ça peut que lui donner raison. Avant de conclure cette émission, un mot sur la première de Titi Henry avec Monaco. Ça s'est pas très bien passé.
Ben oui, le gardien qui s'est complètement troué, un carton rouge. Le mec, il a joué. Quand il rentre, une minute après, il prend le rouge. Bon, c'est vrai que tu peux tout prévoir avant quand tu es entraîneur, mais c'est vrai qu'après, tu as des impondérables. Et bon, mais si tu veux dire aussi, tu l'as pas mis, mais on part, Ludo adore la NBA. Mais une bagarre monumentale entre LeBron James, c'est pas LeBron James, mais bon, il a essayé lui de séparer entre Houston et Los Angeles.
Ça a chauffé.
C'est rare de voir ça à ce niveau-là, et surtout NBA. Ouais. Et donc il va y avoir des suspensions énormes parce que ça ne plaisante pas dans le sport professionnel américain.
C'est vrai. Et bien voilà, du coup, fin de cette émission un peu spéciale.
Ouais. Est-ce qu'on peut demander à Ludo qui nous ramène du saucisson corse et de la bière corse pour lundi prochain?
Voilà.
Exactement.
Et du fromage corse.
Le message est passé. On parlait de basket, mais on n'a pas parlé du basket du BCM.
Si, j'ai dit tout à l'heure qu'ils jouaient.
Ils jouaient pas, bon.
J'ai dit qu'il y avait.
J'étais en pause.
Je l'ai annoncé qu'il n'y avait pas de match. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Puis on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu.
Et bravo à toi pour ta première en tant qu'animateur.
Merci à Léa pour la technique.
Et merci à Léa pour la technique.
Merci à Léa, tout à fait.
Allez, merci, bonne semaine. Ciao.
C'est les Street John au couloir en numéro 2. Allez, les
c'est parti pour les
Street John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet. Je ne dis rien.
C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Utah Diapéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde